France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Le scrutin présidentiel n'aura lieu que dans 8 mois aux États-Unis et déjà le duel se précise. Côté républicain, évidemment, personne n'a l'inconscience de s'opposer à Donald Trump, candidat permanent à sa propre réélection depuis le premier jour de son mandat en 2017. Côté démocrate, c'est mardi prochain, dans 3 jours, que sera confirmée l'identité du champion qui devrait affronter le président sortant. Lors de ce Super Tuesday, 14 États, à commencer par la Californie, vont élire leurs délégués, soit un tiers des participants à la convention de juillet prochain. Jusqu'ici, les candidats démocrates se sont étripés de telle façon qu'ils ont alimenté sur Twitter la verve cruelle de leur principal adversaire. Bernie Sanders, le vieux sénateur du Vermont et le plus gauchiste du lot, fait la course en tête. A-t-il gagné la bataille idéologique contre le courant centriste de Joe Biden et de Pete Buttigieg? Peut-il consolider le socle électoral d'un parti morcelé? Milliardaire contre milliardaire, Michael Bloomberg, qui se dit le seul à pouvoir battre Trump, a-t-il déjà échoué tant ses prestations ont été médiocres? Ou bien ses moyens financiers, l'ampleur de son organisation vont-ils lui permettre d'acheter l'investiture? L'économie américaine est florissante, mais les inégalités s'accroissent. Quel impact sur le vote des minorités et d'abord des Afro-Américains? Le Kremlin, a-t-on appris, rêve d'un duel Trump-Sanders, à en croire les services de renseignement américains. Pourquoi donc Trump et Sanders incarneraient-ils les deux faces d'un même populisme? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du programme États-Unis à l'IFRI. Avec nous par téléphone, Célia Belin. Bonjour Célia, vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution à Washington. Vous êtes avec nous à Grenoble par téléphone pour le moment. Pape Ndiaye, ravi de vous accueillir à nouveau. Vous enseignez l'histoire à Sciences Po à Paris. Jérémy Guèze, vous êtes économiste, professeur à HEC. Laurence, commençons par une sorte d'état des lieux. Avant donc le fameux mardi, on a vu jusqu'à présent ces candidats démocrates, il y en avait 26 au départ, s'affronter déjà dans 3 États. On va voir ce qui se passe ce soir en Caroline du Sud, mais déjà 3 États et plusieurs débats télévisés. Et quel est le bilan d'étape, en quelque sorte?
Oui, alors là, alors que aujourd'hui commence le vote dans un 4e État, dans ce calendrier des primaires démocrates, on a eu en réalité déjà une certaine clarification, qui bien entendu est à confirmer. Mais pour l'instant, on a vu des choses qui semblent vraiment marquées et difficilement... difficilement rattrapable, et notamment un écroulement de la candidature Biden. Biden qui en est finalement à sa troisième campagne pour des primaires démocrates. Il avait déjà concouru en 1988 et ensuite en 2008, donc là c'est la troisième fois.
Biden qui était donc le vice-président de Barack Obama.
Et la tête de file du courant modéré du parti depuis des mois, il faisait la course en tête, suivi par d'autres modérés comme Amy Klobuchar, Pete Buttigieg.
Alors Klobuchar, il faut donc qui est sénatrice du Minnesota.
Exactement. Pete Buttigieg qui a été maire de South Bend, une petite ville de l'Indiana. Et puis Bloomberg qui ne rentre dans la course que mardi, donc le milliardaire ancien maire de New York. Donc, de manière très surprenante, compte tenu des mois de domination précédents, Joe Biden s'est écroulé dans les votes qui ont eu lieu dans les 3 États jusqu'à présent. On va voir s'il réussit aujourd'hui à se remettre, puisque la Caroline du Sud est l'État dans lequel il était censé avoir une victoire, parce qu'il y a un fort électorat afro-américain qui aime beaucoup Joe Biden. Donc, on va voir ce qui se passe. C'est pas forcément très bien parti. Et puis, de l'autre côté, dans le courant radical du Parti démocrate, qui était représenté par Bernie Sanders et par Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, là aussi, je commence par les perdants.
Donc, elle, sénatrice du Massachusetts,
a elle aussi eu des déboires dans les trois États qui ont déjà voté, puisqu'elle n'a pas fait de bons scores, malgré de bonnes prestations dans les débats télévisés. Et donc, pour conclure, aujourd'hui, on a un champ démocrate qui est dominé, jusqu'à aujourd'hui, donc en tout cas, par Bernie Sanders.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, en fait, les modérés se grignoter entre eux, et les deux radicaux, pour ne pas dire gauchistes, Sanders et Warren, aussi.
Oui.
Donc, il y a eu en quelque sorte deux clans qui se sont...
Qui se sont cannibalisés les uns les autres. Sauf que, finalement, on a l'impression que dans le courant modéré, personne ne sort gagnant jusqu'à présent. On a même, donc, pour les sondages concernant la Caroline du Sud, donc on n'a pas les vrais résultats, ce sont des sondages jusqu'à maintenant, déjà des phénomènes, on a l'impression, en tout cas, de report des voix de certains électorats modérés vers Bernie Sanders. C'est-à-dire que déjà, c'est cet effet boule de neige qui rend ce processus des primaires, ce calendrier des primaires si injuste d'une certaine manière, c'est que le succès de Bernie Sanders attire à lui déjà, semble-t-il, des électeurs démocrates qui préfèrent voter utile que voter selon leurs convictions.
Pape Ndiaye, commençons précisément par la Caroline du Sud, donc cette primaire qui a lieu aujourd'hui, ce soir pour nous. Là, une majorité d'électeurs afro-américains pour qui Biden, effectivement, était le personnage le plus populaire, celui qui avait le plus soigné, avec une grande sincérité depuis des années, cet électorat-là. Et vous partagez l'avis de Laurence Nardon, pragmatisme d'abord.
Alors c'est vrai que Biden a tout misé sur la Caroline du Sud et en particulier sur l'électorat africain-américain qui représente la majorité de l'électorat démocrate dans cet État. Et Biden est en quelque sorte auréolé de la vice-présidence Obama. C'est par transfert en quelque sorte par rapport à Obama que l'image de Biden est si positive dans le monde africain-américain, parce que sa carrière personnelle comme sénateur de Delaware n'a jamais été marquée dans le passé par une proximité particulière avec les Africains-Américains. Mais, en effet, comme disait Laurence Nardon, l'électorat africain-américain, comme d'autres d'ailleurs, est un électorat pragmatique. Et il n'est pas du tout garanti qu'il se tourne vers Biden. Il peut se tourner vers celui qui offre les garanties les plus fortes de battre Trump à l'automne. Un peu comme en 2008, cet électorat était d'abord majoritairement du côté de Hillary Clinton, avant de se déplacer vers Barack Obama au fur et à mesure que la candidature de Barack Obama gagnait en crédibilité.
Il faut d'ailleurs se souvenir, je crois, que en termes de participation électorale, jusqu'à présent, aucune primaire n'a atteint le score qu'avait atteint le duel Obama-Hillary Clinton, et c'était quand ça, en 2008. Voilà. Si on élargit le prisme, Pape Ndiaye, et si on voit la façon dont le courant centriste, incarné par Biden surtout, mais aussi par ce jeune maire de 39 ans, Buttigieg, et la sénatrice du Minnesota, qui a été plutôt une bonne surprise, dans les débats, ce courant centriste est-il véritablement en train de fléchir, de plier du genou, et on ne s'y attendait pas?
C'est possible, en effet. Il faut tenir compte d'abord de la force organisationnelle de Sanders, qui est en campagne depuis 4 ans. Il est le seul candidat à avoir été candidat déjà lors des primaires de 2016. Et on connaît le résultat de 2016. Il a donc maintenu un effort du point de vue de son organisation, de ses militants, qui donnent des résultats tout à fait impressionnants aujourd'hui.
Avec beaucoup de petits donateurs.
Beaucoup de petits donateurs, mais aussi beaucoup de militants qui font du porte-à-porte dans des quartiers où on ne voit pas un seul militant de Biden ou un seul militant de Elizabeth Warren, par exemple. Donc il y a là déjà un avantage très important. Et puis du côté en effet des candidats centristes, il y a tout de même cette difficulté à assumer au fond des inégalités qui sont criantes, à parler des grandes évolutions de la société et de l'économie américaine depuis les années 80. Sanders et Warren sont particulièrement à l'aise au fond pour caractériser ou pour tourner le Parti démocrate dans une direction qui est une direction effectivement plus progressiste, pour opérer ce qu'on appelle dans la politique américaine un réalignement.
Donc ce serait la fin d'un cycle, de ce cycle qu'on appellerait libéral, enfin ici en France on dit tout de suite néolibéral, libéral c'est jamais assez, donc néolibéral, mais sérieusement, donc un cycle en fait où le couple Clinton, l'appareil Clinton incarnait cette vision-là en fait d'un centre gauche qui s'accommodait et qui favorisait d'ailleurs l'épanouissement de l'économie de marché.
Oui, ce serait la fin si c'est le cas. On ne sait pas encore, bien sûr, si Sanders devient le candidat démocrate. Dans le Parti démocrate, ce serait la fin d'un cycle qui est celui des années 80-90, lorsque Clinton a été élu sur une base centriste, lorsque Obama a été élu sur un programme qui lui aussi était centriste à l'exception de la réforme de l'assurance santé. Un Parti démocrate qui renouerait au fond avec ce qu'il avait pu être jadis, il faut remonter peut-être à McGovern dans les années 70. D'ailleurs, ça n'a pas été un succès. Si on compare McGovern et Sanders, des campagnes très marquées à gauche qui se concluent par une défaite cinglante à l'automne, donc le Parti démocrate qui effectuerait un virage à gauche tel qu'il n'en a pas connu depuis presque 50 ans maintenant.
Et donc ce serait en quelque sorte une fenêtre historique pour des candidats et d'abord Sanders, effectivement, répète depuis 5 ans les mêmes arguments.
Voilà, c'est comme ça en tout cas que Sanders et Warren analysent la situation politique. Ils estiment que la politique américaine est sur le point d'opérer un réalignement, c'est-à-dire une réorganisation politique, comme on en a connu dans le passé en 1980 du côté droit, ou en 1933 avec l'élection de Roosevelt du côté gauche. Donc une sorte de réorganisation de la politique américaine. Mais évidemment, ça, c'est un pari politique qui n'est absolument pas garanti.
Célia Belin, merci d'être avec nous par téléphone. Vous travaillez à la Brookings, qui est un think tank à Washington, et vous publiez ces jours-ci en France, chez Fayard, un ouvrage sur le Parti démocrate, une exploration en profondeur du Parti démocrate, l'heure des choix face à Donald Trump, c'est le titre que vous avez donné à cet ouvrage. Selon vous, ce Parti démocrate est en pleine mutation, c'est véritablement, comme vient de le souligner Papendiaï, un tournant ?
Oui, tout à fait. On observe une transformation du Parti démocrate et de la coalition qui compose le Parti démocrate pendant ses primaires. Un peu comme on a pu le voir donc en effet au début des années 80 au sein du Parti républicain, mais plus récemment à partir du moment où le Parti républicain sous l'impulsion dans les années 90 notamment de Newt Gingrich a pris un tournant vraiment idéologique. Et le Parti démocrate, lui, pendant ce temps, sous les présidences Clinton puis Obama, était resté un parti de centre de gauche, grande coalition, grand chapiteau qui rassemblait divers intérêts, à la fois les syndicats, à la fois les intérêts de Wall Street, les intérêts de la Silicon Valley, et puis les intérêts des minorités. Et il y avait cette espèce de coalition qui faisait le centre gauche américain. Mais on voit que de la même manière que ça s'est passé à droite, il y a maintenant un tournant un peu idéologique où le cœur des idées progressistes prend le pas sur la volonté simplement de rassembler et ce mouvement qui a vraiment été accéléré par la victoire à mon avis de Donald Trump et de la réflexion que se font les démocrates par rapport à Donald Trump est en train de transformer en profondeur ce parti qui du coup vit une sorte de crise de la quarantaine existentielle à se demander s'il sera plus puissant et donc plus facilement réussir à atteindre la Maison-Blanche de nouveau en restant un parti de rassemblement ou s'il va réussir sa mutation et sa transformation en devenant un parti idéologique qui réussit à faire mobiliser et sortir sa base électorale. Et c'est ça toute l'interrogation qu'on trouve au cœur de ces primaires.
Et ça, en fait, c'est l'effet Trump sur les militants démocrates. C'est-à-dire que le choc de cette présidence, cette rupture absolue à la fois de style, mais aussi cette rupture politique par rapport aux traditions du Parti républicain proprement dit, c'est bien Donald Trump qui contraint en quelque sorte le Parti démocrate à se réinventer.
Oui, il y a d'abord le choc lui-même. On sait très bien qu'au lendemain de la victoire de Donald Trump, qui était également l'échec d'Hillary Clinton, il y a vraiment eu un effet de gueule de bois à s'interroger sur mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais plus profondément, je pense que ce qui se joue au sein de ces primaires et qui explique une partie du chaos actuel, pas enfin en tout cas de la confusion à la fois idéologique et la confusion de personnalité, c'est qu'il y a une question assez fondamentale qui est posée aujourd'hui pour les démocrates, mais plus largement en fait pour toutes les démocraties occidentales qui voient arriver, tout comme Trump, ces vagues de nationalisme populiste. Comment le nationalisme populiste arrive-t-il au pouvoir et comment l'arrêter? Et donc toute la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2016, et c'est seulement si on arrive à répondre à cette question de qu'est-ce qui s'est passé en 2016 qu'on peut répondre à la question que faire en 2020. Et là, je pense qu'il y a différents modèles. Donc il y a le modèle peut-être celui de l'establishment, du cœur du parti, qui se dit que 2016 était avant tout un accident. C'est parce qu'il y a eu une mauvaise campagne de la part d'Hillary Clinton, qu'il y a eu de la désinformation russe, qu'il y a eu une série d'événements qui ont amené une aberration historique qui est qui serait le président Donald Trump. Et c'est Joe Biden, l'ancien vice-président, qui le répète très souvent. Il dit de Donald Trump, c'est une aberration historique. Et lui propose dans sa campagne de simplement gagner et ensuite de revenir à la normale. Et je pense que de l'autre côté, on a tout à fait un autre courant qui considère que ce qui s'est passé en 2016 est un reflet d'une crise très profonde, une crise socio-économique, mais aussi une crise sociétale, également une crise de la démocratie américaine, et que donc à ce titre, on peut plus se voiler la face, on peut plus simplement éviter de voir qu'il faut répondre à cette crise, qu'il faut avant tout répondre aux demandes de ceux qui ont porté Donald Trump au pouvoir, mais aussi de tous ceux qui ne se sont pas exprimés parce qu'ils étaient écœurés par la candidature d'Hillary Clinton, et il y en a d'autres. Et ça, c'est évidemment porté par Bernie Sanders, mais à d'autres manières, il y a beaucoup parmi ces candidats qui ont cette idée, donc Elizabeth Warren, mais aussi à certains critères, Pete Buttigieg, cette idée de renouvellement de la politique et de finalement arriver à passer dans un monde au-delà de Trump qui aura intégré Trump comme en tant que facteur dans cette élection de 2020.
Célia Belin, restez avec nous quelques temps encore, s'il vous plaît. Je voudrais demander à Jérémy Guez, je rappelle, Jérémy, que vous êtes économiste, professeur à HEC. Quand on entend Bernie Sanders dérouler son programme, et comme le disait Papendiaï, en fait, il n'a pas cessé de dérouler ce même programme depuis son duel assez féroce avec Hillary Clinton il y a 5 ans. Comment se fait-il qu'il arrive à convaincre finalement des clientèles assez différentes? Il n'y a pas que les jeunes qui manifestement militent pour Sanders, il y a d'autres catégories de population, alors que contrairement à ce qui se passe chez nous, en Europe, son programme de santé universelle, par exemple, le financement reste totalement flou et n'est pas nécessairement approuvé par une majorité d'Américains.
C'est la réponse en termes de radicalité à Donald Trump. On était nombreux à se demander en 2016 est-ce que c'était un accident, ce phénomène Donald Trump. Aujourd'hui, il y a plusieurs preuves qui suggèrent que non, Trump n'est pas un accident. Et donc, Bernie Sanders, à mes yeux, incarne la meilleure réponse d'un certain nombre de démocrates qui se sont dit, oui, 2016, Hillary Clinton, certes, c'était une campagne assez médiocre, mais elle s'est affichée comme centriste, elle s'est affichée comme rationnelle, comme la candidate évidente, et malgré tout cela, elle a quand même échoué.
Enfin, elle a eu quand même une majorité de 2 millions de voix.
C'est, absolument.
C'est quand même toujours ce qu'on oublie s'agissant du système électoral américain par rapport à nos systèmes européens.
Absolument, mais il y a eu un énorme réservoir en Californie autour de Los Angeles et à New York. Et il existe toute une partie de la population qui reste encore perplexe vis-à-vis, je dirais, de ce candidat de l'establishment qui essaye de se montrer comme le choix évident quand elle n'a pas été capable, en tout cas, de battre Donald Trump. Et pour en revenir à votre question, je pense que ce que Bernie Sanders incarne, c'est cette idée de dire la réinvention politique, on ne l'a pas opérée au sein du Parti démocrate. C'est ce qui explique que l'aile modérée est en train de fléchir au sein du Parti démocrate et que Bernie Sanders aujourd'hui incarne, je pense, la meilleure vague, ou en tout cas le meilleur candidat pour surfer sur la vague du mécontentement. En 2016, pour rappel, il y a beaucoup de soutien de Bernie Sanders qui n'étaient pas du tout satisfaits par la candidature d'Hillary Clinton, qui se sont tournés vers Donald Trump, et que, effectivement, sur le papier, on a deux candidats entre Trump et Sanders qui sont antinomiques sur tellement de points, mais qui incarnent cette colère du peuple américain. Et je crois que cette colère, effectivement, elle est partagée par les jeunes, mais elle est aussi partagée par ces électeurs du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie, ces trois États qui ont fait basculer 2016. Je rappelle juste, ces trois États qui ont voté républicain en 2016, c'était la première fois depuis 1992. Et c'est là où beaucoup de stratèges démocrates se sont mis le doigt dans l'œil, pensant qu'ils allaient remporter ces trois États. C'est ça qui a tout fait basculer. Et aujourd'hui, la meilleure réponse à Donald Trump, c'est de se remettre à parler à ces gens en colère, ces gens à qui on a dit de soutenir ce système de mondialisation parce que c'était dans leur meilleur intérêt, et qui en 2016 ont dit « non ». Puisqu'en finalement, j'ai perdu mon emploi et mes enfants vont vivre une vie autrement plus difficile que la mienne.
Laurence Nardon.
Je voulais juste ajouter quelque chose qui me semble, une date qui me semble importante, parce qu'on parle évidemment de 2016, de l'électrochoc, enfin c'est un peu la catastrophe pour beaucoup de démocrates, effectivement, mais une autre date très importante, c'est la crise de 2007-2008, parce qu'en réalité, c'est là que bascule l'opinion d'une grande partie de démocrates, et dans leur perception du système économique et du contrat social américain, et que finalement beaucoup prennent conscience du fait que le système américain ne fonctionne plus, que la mobilité sociale ne fonctionne plus à cause des excès ultra néolibéraux, comme vous disiez tout à l'heure, engagés dans les années 80, et que le parti New Democrats, le parti démocrate centriste libéral, finalement a trahi la base ouvrière du pays. Et en fait, c'est ça ce qui met le pied à l'étrier à des politiciens comme Sanders, finalement. Puisque Sanders a les mêmes idées depuis les années 70, mais enfin, il a commencé à avoir du succès avec ses idées, avec le mouvement Occupy Wall Street, absolument. Puis ensuite, la campagne de 2016, évidemment, jusqu'à aujourd'hui.
Et on peut d'ailleurs se demander, Jérémy Guez, jusqu'à quel point, sous l'impact du coronavirus et tout à coup l'effondrement des marchés financiers qui, avec un décalage de quelques jours par rapport à l'économie réelle, les marchés financiers tout à coup disent « oh là là, mais ça va pas du tout, est-ce qu'on va à nouveau vers un crack ?» et un Donald Trump qui montre le muscle, qui désigne son vice-président, ce qui n'est d'ailleurs pas un cadeau, comme étant le grand général en chef de la lutte contre le coronavirus. Jusqu'à quel point est-ce que cette crise financière que nous vivons ces jours-ci, et qui peut encore s'aggraver, va changer là aussi l'équilibre ou la dynamique de cette campagne?
C'est un problème important. On sait que dans la coalition qui a mené Trump au pouvoir, il y a 33% de l'électorat, grosso modo, qui sont des loyaux parmi les loyaux. Et quand bien même il y aurait une récession, une crise, eux resteraient avec Donald Trump. Il y a après une partie des républicains, 10 à 15% à la louche, qui soutiennent ce président. Pourquoi ? Parce que les résultats économiques ont été là. On est dans le 128e ou le 129e mois d'expansion économique. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine.
Même si il n'a pas délivré, comme on dit en franglais, ni la réouverture des mines de charbon, ni le soja, malgré les accords avec la Chine. Enfin, il y a des régions qui avaient voté pour lui pour ces raisons-là et où les résultats ne s'affichent pas. Hein.
Pour ces 10 à 15% de l'électorat américain, et surtout républicain, peu leur importe. Comme on dit en anglais, le diable que je connais vaut bien mieux que le diable que je ne connais pas. Ce diable-là, je ne l'aime pas politiquement, je n'aime pas ce qu'il incarne, mais les résultats économiques sont là. Et pour en revenir à votre question, effectivement, s'il devait y avoir une crise qui devait s'inscrire dans le temps, et éventuellement un retournement conjoncturel, ce qui ne serait pas une très grande surprise économique. Après 128 ou 129 mois d'expansion, connaissant la nature cyclique de l'économie, on pourrait s'y attendre, et ça ne serait probablement pas la faute de Donald Trump. Mais s'il y avait ce retournement conjoncturel, ces 10 à 15% de l'électorat pourraient décider de rester chez lui, surtout si l'alternative c'est Bernie Sanders. On peut se faire élire avec 43 à 45% de l'électorat américain, compte tenu du fonctionnement du système électoral dont vous parliez tout à l'heure, on ne peut pas se faire élire avec 33% de l'électorat. Et la réponse est donc oui, ça pourrait avoir des effets politiques, surtout si ça a entraîné l'économie américaine en récession. En un mot, souvenez-vous de George Bush le père, qui est extrêmement populaire pendant tout son mandat. Il construit une coalition internationale pour déloger Saddam Hussein d'Irak pendant la première guerre du Golfe, guerre qui a été tout à fait comprise par l'opinion publique américaine. Grand drame de cette présidence, l'Amérique rentre en récession pendant la quatrième année du premier mandat de Bush père, sa popularité dégringole et il perd face à un certain Bill Clinton. Trump a été autrement moins populaire que Donald Trump pendant tout son mandat, mais ça pourrait poser un certain problème, je dirais, à Donald Trump dans la capacité à continuer à mobiliser cette coalition.
Est-ce que cela pourrait nourrir l'argumentaire de Sanders, encore une fois, dans l'hypothèse d'une crise économique et financière profonde?
Absolument, absolument. Et je voudrais pousser d'ailleurs le propos de Laurence Nardon une étape plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, que dès 2008, finalement, il y a eu ce mécontentement. Et je serais presque tenté de me demander si c'était pas Barack Obama le premier candidat de la colère américaine. C'est-à-dire que si lui avait été élu, c'était pour mettre fin à ce système d'establishment, et que nous, Européens, on s'est dit que la continuité, c'était de voter pour Hillary Clinton, alors que non, pour l'électorat, l'électeur moyen, c'était de voter pour Donald Trump. L'étape d'après, dans le mécontentement de cette opinion publique, si Donald Trump n'est pas capable, finalement, de réussir son pari, ça pourrait tout à fait être Bernie Sanders. Il y aurait une suite logique, aussi antinomique que ces candidats puissent paraître.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Célia Belin, je rappelle que vous êtes chercheuse à la Brookings et que vous publiez un livre sur le Parti démocrate américain. Jusqu'à quel point est-ce que Bernie Sanders, selon vous, incarne ou cherche à incarner, en tout cas, la réconciliation entre des motivations qui sont très différentes finalement parmi les différentes catégories d'électeurs potentiels pour lui, qu'il s'agisse de questions socio-économiques, mais aussi des questions d'identité, de genre. On sait à quel point ça imprime aussi pour la jeune génération surtout et jusqu'à la caricature la culture américaine d'aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu surprenant de voir le sénateur du Vermont qui est en politique depuis 40 ans et qui a toujours représenté une toute petite frange politique vraiment très à gauche au sein du Parti démocrate. Lui-même se revendique socialiste et non pas démocrate. Il n'appartient pas au Parti démocrate. Il siège en indépendant, même s'il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Et c'est très étonnant de voir cette personnalité devenir ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire un rassembleur des forces progressistes, alors vraiment sur la gauche du parti. Mais ce qui s'est passé, c'est que en 2016, Bernie Sanders était le candidat des pauvres, était le candidat de la classe moyenne inférieure, était le candidat qui s'insurgeait au nom de ces Américains appauvris contre l'establishment qui était représenté par Hillary Clinton. Et c'est fort. Et là, évidemment, il a échoué face à Hillary Clinton, qui avait une machine plus importante et qui avait un temps d'avance. Mais là, fort de cette première campagne, Bernie Sanders a ensuite construit pendant 4 ans, je crois que c'est Pat Ndiaye qui le disait, il a continué à faire campagne pendant ces 4 années-là. Et là, il a élargi sa base de soutien et en grande partie en allant chercher les progressistes et les minorités, toute la jeunesse qu'on a vu vraiment apparaître et se déployer, notamment aux élections de mi-mandat de 2018. On se souvient de la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est un très bon exemple de cette de ce pont qui a été créé entre les progressistes très à gauche sur les questions socio-économiques, mais aussi les progressistes noirs américains, latino-américains et autres minorités qui ont en fait envie de rassembler toutes les luttes. On sait que pendant des années, c'est Marc Lila qui le disait. Il y a eu
oui, Marc Lila qui a été notre invité dans cette émission et qui avait, dans un livre qui a été traduit en français, mis en cause les erreurs d'un parti démocrate qui avait délaissé en fait ses préoccupations sociales pour ne s'intéresser qu'aux questions d'identité, de genre, le parti des experts, des intellos, etc., qui en gros était hors sol.
Voilà, c'était un peu le reproche que l'on faisait traditionnellement, que le Parti démocrate s'intéressait aux problématiques des transsexuels et non pas aux problématiques de fond socio-économiques. Et on opposait l'un à l'autre en disant d'un côté la question des bobos qui se préoccupent de questions identitaires et puis de l'autre côté les ouvriers qui ont du mal et dont plus personne ne s'occupe et qui vont voir l'extrême droite. Comme dans bien d'autres démocraties occidentales. Mais en fait, là, on a, à travers la candidature de Bernie Sanders et à certains titres celle de Elizabeth Warren, on a la création d'un nouveau mouvement progressiste intersectionnel qui va chercher tous les progressismes de tous les côtés et qui fait le pont. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, le Sunrise Movement, qui est ce mouvement d'action pour l'action climatique, qui est porté par une jeunesse très diverse, avec des jeunes Américains issus de diverses minorités, et qui a apporté son soutien à Bernie Sanders. Ça, c'est pas un hasard, parce qu'en fait, ces gens-là considèrent que si lui porte la voix sur les questions des pauvres, il va aussi la porter sur toutes les questions des minorités, sur les Noirs américains, sur les Latino-américains, mais aussi sur les questions LGBT. Enfin, il y a un mouvement progressiste qui s'incarne étrangement par la personne, à travers la personnalité de Bernie Sanders.
Qui a 78 ans, il faut rappeler. Merci Célia Béline pour cet éclairage tout à fait passionnant. Pape Ndiaye, on comprend bien donc la force de ce message, mais aussi la peur que ce message peut créer auprès d'un électorat centriste plus traditionnel. Enfin, c'est même si pour nous le programme d'un Sanders ou d'une Warren c'est de la social-démocratie
classique,
voilà. Dans le contexte américain, c'est quand même tout à fait fracassant.
C'est peut-être d'ailleurs son programme d'assurance santé obligatoire, avec une forme de nationalisation de la santé qui effraie le plus l'électorat centriste, puisque beaucoup d'Américains sont attachés à un système d'assurance santé par leur propre entreprise, par leur propre organisation, et n'ont pas forcément envie de se tourner vers un système national. Mais Sanders a une autre carte quand même dans sa manche, qui est susceptible de rassembler très largement, notamment cette grande classe moyenne, y compris une fraction de la classe moyenne supérieure, c'est la gratuité des études supérieures.
C'est oui, parce que la dette étudiante, ça c'est aussi un phénomène dont on n'a pas idée en Europe, c'est monstrueux.
Elle a dépassé les 1000 milliards de dollars et envoyer ses enfants à l'université quand l'année coûte plus de 60 000 dollars et qu'on a plusieurs enfants, c'est un casse-tête pour des millions de familles, y compris des millions de familles qui sont dans la classe moyenne classique. Et donc là, Bernie Sanders, évidemment, à l'oreille de beaucoup d'Américains, et évidemment en premier lieu les jeunes Américains. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer sa capacité à aller du côté d'un électorat centriste qui peut d'ailleurs aussi voter simplement défensivement, ou en tout cas voter pour Sanders pour se débarrasser de Trump.
Mais j'ai retrouvé une citation de John Steinbeck, qui est donc le grand romancier du milieu du siècle dernier, qui disait « Il n'y a pas de socialisme en Amérique car on n'a pas de prolétaires. On n'a pas de prolétaires, mais des capitalistes momentanément dans l'embarras. » Alors ça correspondait bien à ce qui se passait il y a la mentalité américaine de 70 ans, mais néanmoins, il y a quand même toujours le rêve américain, il y a quand même toujours l'admiration pour le type qui réussit. Et là, il y a Michael Bloomberg, qui était expert comptable et qui est maintenant, je crois, la 9e fortune américaine, et qui, ou du monde, 9e fortune du monde, et qui a déjà dépensé près d'un milliard de dollars. Il a eu un lapsus d'ailleurs intéressant il y a quelques jours. Il commentait le succès des élections de midterms, de mi-mandat, où les démocrates ont reconquis à la Chambre des représentants un certain nombre de sièges détenus par des républicains, et il disait « je les ai achetés ». Bon, mais on a vraiment l'impression que lui, Pap Ndiaye, il veut acheter tout simplement l'investiture, sinon même l'élection.
Oui, et en effet, il a dépensé un demi-milliard de dollars jusqu'à présent. Il prévoit d'en dépenser encore plus dans le futur. Et cette tentative tout à fait extraordinaire, évidemment, est scrutée pour savoir ce qu'il advient d'une politique américaine qui est déjà fortement structurée par l'argent, tout de même, de manière massive depuis longtemps. Au fond, depuis l'arrivée de la publicité à la télévision avec l'élection de 1960, là, il y a une bascule qui fait qu'on entre dans une autre sphère avec des dépenses extraordinaires. Obama a été le premier à franchir la barre du milliard de dollars en 2008. Pas de sa propre poche, bien entendu, avec un réseau très, très sophistiqué.
Et la Cour suprême.
Et la Cour
qui
suprême.
Qui a fait sauter le plafond.
Qui a fait sauter le plafond. Et puis, de toute façon, ils ont abandonné la perspective du remboursement public en optant, franchement, pour des fonds privés et les fameux super PAC qui permettent d'abonder des fonds quasiment sans limite dans la campagne présidentielle. Donc, Bloomberg, de ce point de vue-là, ne change pas radicalement la campagne. L'argent vient de sa poche. Mais du point de vue des structures de dépenses et de la manière dont il s'y prend, c'est relativement similaire à ce que d'autres ont fait dans le passé. Pour revenir à Steinbeck, c'est intéressant parce que Steinbeck, évidemment, il vient du socialisme américain. Donc il y a ce regret de l'absence de conscience de classe, hein, finalement. Il y a des ouvriers, mais ils n'ont pas de conscience de classe.
Et c'était quelle année, ça?
Ça, c'est dans les années 30, ouais. À l'époque, évidemment, du New Deal, à l'époque des raisins de la colère, bien sûr, son plus célèbre roman. À écouter quand même la campagne de Sanders et les accents très gauchistes, parfois marxistes, qu'il peut prendre, on se dit qu'il y a encore quelque chose qui peut ressembler à la conscience de classe, c'est-à-dire à la formation d'une sorte de groupe populaire qui n'est plus appuyé sur les ouvriers de la grande industrie, bien entendu. On n'est plus dans les années 30 ou dans les années 50, mais aux États-Unis, notamment dans ces vieux États industriels où Trump a bien réussi en 2016, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, beaucoup de gens qui gagnent des sommes, qui travaillent et dont le salaire est extrêmement faible en dépit des performances de l'économie américaine. C'est tout à fait frappant de voir les chiffres macro dont Trump se gargarise et une réalité du point de vue d'une fraction importante des classes populaires américaines qui ne voient pas directement les résultats financiers extraordinaires qui sont proclamés par Trump.
Laurence Nardon, on a vu Michael Bloomberg absolument très mauvais, pour ne pas dire minable, dans un débat télévisé à Las Vegas. Néanmoins, jusqu'ici, il n'a pas affronté les électeurs dans l'urne. Ce sera la première fois aujourd'hui même en Caroline du Sud.
Non, ce sera mardi, il rentre dans la course.
Ah, ce sera mardi, absolument. Il évite donc les Afro-Américains, oui. Parce que là, il doit se dire aussi que ce n'est pas son électorat naturel. Donc, vous avez raison, bien sûr, c'est mardi dans 14 États à la fois, et la Californie qui représente à elle seule 415 délégués. Donc, c'est un énorme paquet. Oui. Allez-y.
Plus les démocrates abroad, les Américains démocrates qui sont à l'étranger, forment une 15e circonscription d'une certaine manière. Et je crois Samoa, les îles Samoa.
Et le Texas avec plus de 200
délégués. Oui, non, mais en plus des 14 États proprement dit, il y a deux autres groupes d'Américains qui votent.
Donc, encore une fois, le personnage Bloomberg, la caricature de l'ultra-milliardaire, mais aussi le rêve américain, mais aussi l'homme richissime qui consacre à la philanthropie et de façon concrète, et notamment dans les milieux et les mairies conquises par les Afro-Américains énormément d'argent, soutenu d'ailleurs par quelques maires afro-américains de grandes villes. Il y avait un entretien très intéressant chez Guillaume Erner jeudi matin, donc sur France Culture, de Steve Bannon, qui est donc toujours le diable noir, qui prétend influencer Donald Trump pour le meilleur et pour le pire. Et Bannon prédit, à l'entendre, que Bloomberg va casser Sanders, que Wall Street, la Silicon Valley, disons l'Amérique riche ne votera jamais pour Sanders et ira plutôt vers Bloomberg, que Bloomberg pourrait rafler même des républicains qui sont un peu lassés par Donald Trump, mais que finalement Donald Trump gagnera parce qu'il aura lui, Trump, tous ces démocrates qui refuseraient de voter Bloomberg. Donc c'est un raisonnement à la Steve Bannon, mais qui mérite quand même un commentaire.
Il y a énormément de choses à répondre à votre question qui est très dense. Je vais simplifier, je vais en faire deux.
La
personne
beaucoup.
De Bloomberg proprement dite. Mais d'abord, je voudrais parler, en fait, finalement, du raisonnement de tacticien politique qu'a proposé Bannon jeudi matin. Et c'est en fait toute la question de savoir comment les démocrates modérés voteraient si c'est un radical tel que Sanders qui est
c'est mieux dit.
Investi. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que leur mobilisation va fléchir ou non si c'est Sanders qui est investi par le parti. Les enquêtes d'opinion qu'on observe depuis plusieurs mois montrent que effectivement une partie des modérés n'aiment pas Sanders et donc est-ce qu'ils resteront chez eux. Moi je crois que, comme l'a dit Célia Belin tout à l'heure, chez les modérés démocrates, il y a une partie qui pense que l'élection de Trump en 2016 est un accident, une catastrophe, et donc je pense que ces gens-là iront voter pour Sanders pour se débarrasser de Trump. Ils iront voter pour n'importe qui est investi par le parti, par haine, certains disent par hystérie anti-Trump. Donc ça semble dire qu'un Sanders pourrait remporter leur suffrage. Et d'ailleurs, en un mot, à l'inverse, il n'est pas certain que si c'est un modéré qui emporte l'investiture, revenons sur une hypothèse d'une victoire de Biden pour un petit moment.
Il paraît quand même
nous allons
peu probable.
Oui, mais prenons cette hypothèse. Il est, à mon avis, moins certain que les radicaux du Parti démocrate se déplacent pour aller voter pour un Biden contre Donald Trump, parce que pour eux, d'une certaine manière, les centristes du Parti démocrate et Trump, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, puisque ils sont les républicains comme les centristes démocrates sont à leurs yeux également coupables de la trahison des classes moyennes depuis des années.
Mais sans exclure déjà Michael Bloomberg, Jérémy Guez, jusqu'à quel point cette espèce de tornade de dollars, mais aussi des équipes qui sont extrêmement actives, utilisant les réseaux sociaux avec un degré de sophistication et de manipulation jamais vu. Ils ont manucuré, comme on dit, en particulier le compte-rendu du débat lamentablement raté par Bloomberg, le débat de Las Vegas. Ils ont fait comme si les autres participants ne trouvaient pas de réponse à ces arguments, alors que c'était exactement l'inverse. Jusqu'à quel point est-ce que Bloomberg, à partir de mardi, peut essayer d'acheter, primaire après primaire, les jalons qui pourraient le mener jusqu'à la convention?
Je pense que l'avenir nous le dira.
Certes.
Je pense que, mais si vous voulez, c'est très très difficile en fait de répondre à cette question parce que il y a deux réponses possibles. Il y a effectivement le poids de l'argent dans cette campagne électorale qui, je pense, est socialement beaucoup plus acceptable aux États-Unis qu'elle ne l'aurait été en Europe.
Oui, chez nous, c'est impensable.
Absolument.
Et illégal. Donc.
Et donc, Michael Bloomberg, effectivement, a cette carte à jouer, il a cette influence à jouer, il a une équipe derrière lui et il a aussi toute une expertise derrière lui. Mais l'autre interprétation ou l'autre réponse à tout cela, c'est est-ce que la colère, finalement, qui est derrière le candidat Sanders, qui l'a poussé jusque là où il est aujourd'hui. Est-ce que ça ne serait pas suffisant finalement pour mettre un terme à l'influence de Bloomberg? Je pense que la difficulté que je ressens à l'heure actuelle en tant qu'observateur de la vie politique américaine, c'est qu'on a été, et à juste titre, tous formés à penser la vie politique américaine en termes de deux partis. Et je me pose la question jusqu'à quel point tout cela pourrait persister. Parce que finalement, Bloomberg incarne quelque chose politiquement.
Il, incarne... bah, il est passé, il a virevolté, comme
oui.
Trump d'ailleurs.
Mais même au-delà, oui, absolument. Mais même au-delà finalement de ces tergiversations politiques, il incarne un centre un peu ennuyeux, un peu technocrate, en tout cas au moins j'ai réussi dans les affaires et donc je suis un technicien qui va réussir. Il y a une demande politique pour cela, au centre. Mais elle n'est ni républicaine, ni démocrate aujourd'hui.
Une demande d'homme fort, efficace, technocrate quasiment, Papendiaï.
En tout cas, de businessman qui a réussi, on en connaît un autre actuellement, en tout cas quelqu'un qui s'est fait élire président en 2016 également sur sa personnalité de businessman. Le programme de Bloomberg lui-même est quand même des plus flous. Les candidats centristes, Buttigieg en particulier, mais aussi Biden, ont au moins des propositions à faire. Du côté de Bloomberg, il n'y a pas grand-chose. Il a un énorme problème du côté de l'électorat minoritaire, puisque quand il était maire de New York, il s'était signalé par des politiques qui étaient plutôt hostiles à l'égard des Africains-Américains, notamment ces politiques d'arrestation et de palpation des jeunes hommes noirs
Oui, l'arrestation au faciès, sans oublier exactement. Les blagues sexistes pour lesquelles il demande pardon assez platement. Aujourd'hui.
Voilà, pour lesquelles il est connu dans sa propre société. Alors, il essaie de compenser depuis quelques semaines en versant de l'argent à des municipalités africaines-américaines et à des organisations pour se rallier des soutiens. C'est quand même un peu gros, c'est quand même difficile. Moi, je vois difficilement au sein du Parti démocrate un chemin politique pour une personnalité comme Bloomberg.
Laurence Nardon, il y a tout un aspect qui s'impose, enfin il y a toute une actualité internationale qui s'impose à cette campagne et qui s'impose aussi d'ailleurs au seul candidat républicain en lice, c'est-à-dire Donald Trump. On a vu, s'agissant en particulier de l'Iran, que Bernie Sanders a eu des réactions très, café du commerce, en disant ben, « c'est très simple, avec les ayatollahs, voilà, moi je m'assieds, et puis on discute, et puis voilà ». Et puis on a vu, dans le dernier débat télévisé, ses rivaux démocrates mettre en cause son voyage de noces à Moscou il y a longtemps, ses louanges de Fidel Castro, sa tendresse pour des régimes autoritaires, carrément autoritaire, mais de gauche, dit-il. Jusqu'à quel point est-ce que ce facteur-là peut jouer à partir de mardi et dans les mois qui viennent?
Oui, le positionnement de Sanders en matière de politique étrangère, c'est celui d'un non-interventionnisme et d'un certain repli. Et d'ailleurs, c'est l'une de ces, enfin, l'une de, des ressemblances de son programme avec celui de Donald Trump, hein, c'est-à-dire que il est un peu pour un repli de la même manière qu'il est pour un certain protectionnisme sur les questions commerciales, Bernie Sanders. Hein.
Oui, Sanders, s'il est élu, c'est pas du tout le retour vers le multilatéralisme. Alors, et nos amis européens.
Alors, peut-être que si, parce qu'en fait, il se veut quand même internationaliste. C'est le souvenir de son passé à l'extrême gauche. Il a un côté un peu internationaliste. Je pense qu'on verrait un retour à un certain multilatéralisme s'il était élu. J'en veux pour preuve qu'il annonce un retour des États-Unis dans les accords de Paris sur le climat dès son élection, s'il était élu. Donc, une certaine quête de non-interventionnisme, mais à la différence de Trump, lui, il veut une politique étrangère morale. Il a parlé, il s'est exprimé sur l'Iran.
Ça, c'est quand même une définition très difficile à mettre au point.
Non, il réclame par exemple un arrêt du soutien de l'Arabie Saoudite dans sa guerre contre le Yémen. Ça, c'est quelque chose sur lequel il revient très régulièrement. Et non, il y a quelque chose qui s'appelle le non-interventionnisme moral, qui est notamment défendu par un nouveau think tank qui vient de se créer à Washington, qui s'appelle le Quincy Institute, et qui réclame effectivement une politique multilatéraliste, mais non-interventionniste. C'est effectivement peut-être souvent le grand écart au cas par cas, mais c'est une position qui peut se soutenir et qui est celle aujourd'hui de Bernie Sanders.
Est-ce que les dossiers internationaux vont jouer un rôle? On dit toujours que ça n'en joue pas. Mais là, le chaos du monde est tel. Est-ce que les dossiers internationaux vont peser sur le choix des électeurs démocrates? Déjà, on va le voir dès mardi et on va le voir jusqu'au mois de juillet, pratiquement. Mais
je n'ai pas l'impression, une fois de plus, que les questions internationales vont vraiment jouer. On a d'un côté le républicain Donald Trump qui fait campagne sur un projet nationaliste de repli. Et donc, il ne va pas vraiment porter de projet pour le rôle des États-Unis dans le monde. Et de l'autre côté, comme on vient de le souligner, il y a effectivement une césure entre le radical Sanders et puis les autres. Hein. Joe Biden, par exemple, fait campagne pour une politique étrangère extrêmement traditionnaliste pour les États-Unis qu'on a connue dans le troisième, quatrième quart du XXe siècle, une politique interventionniste, morale, multilatéraliste, oui, atlantiste, de soutien aux alliés, etc. Donc oui, la césure, elle se fait peut-être plutôt entre candidats démocrates qu'entre Sanders et Trump.
Pape Ndiaye, précisément, la césure, ces différences entre candidats démocrates, est-il exact de souligner à chaque fois à quel point ce parti est en fait divisé, fractionné, morcelé à partir du moment où il met en piste des candidats qui sont tellement différents, qui ont des positions tellement différentes les uns des autres?
Le Parti démocrate est historiquement divisé et fractionné. Il est plus que le Parti républicain, au moins jusqu'à ces dernières années. Donc, on peut penser d'ailleurs à des moments dans l'histoire du Parti démocrate, au début des années 30, dans les années 50, ou bien en 80, par exemple, avec l'opposition entre Carter et Kennedy pour l'élection de 1980, où le parti était extrêmement divisé, avec des affrontements qui n'étaient pas simplement de personnalité, mais des affrontements idéologiques. Lorsque la primaire est réussie, parfois, évidemment, c'est la catastrophe, eh bien, le parti arrive à trouver un ticket, un président et un vice-président, qui rassemble cet électorat composite dans un discours unificateur avec des personnalités un peu charismatiques.
Oui, le ticket, ça c'est très important. Donc ça se passe au moment de la convention. Donc ce sera en juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin. Et donc c'est là où les alliances
se
cristallisent.
On peut choisir un vice-président qui va aller rameuter un électorat que le candidat à la présidence ne peut pas rameuter, un vice-président centriste si le candidat est un peu plus à gauche. Et l'inverse, éventuellement, sauf lorsque...
C'est ce qu'Hillary Clinton avait loupé.
Exactement, en choisissant un sénateur de Virginie très, très pâle qui ne permettait pas de récupérer l'électorat de Sanders. Et donc, il y a toute une tactique à développer. Il y a toute la question de la convention. La convention peut mal se passer. Il est arrivé que ça se passe très mal.
Quel est le terme, d'ailleurs? Parce que je voyais que Nancy Pelosi, qui est donc la patronne des députés à la Chambre des représentants, qui n'est franchement pas du bord de Sanders, annonce pratiquement ce qui s'appelle un brokered convention.
Voilà,
qu'est-ce que ça veut dire?
Une convention contestée, c'est une convention au cours de laquelle les oppositions se durcissent entre les candidats, avec des mouvements de délégués d'un camp à l'autre, avec éventuellement le rôle des super délégués qui est moins important que par le passé. Bref,
quoi les super délégués?
Ce sont des délégués qui ne sont pas affiliés à un candidat spécifique et qui entrent en jeu. Maintenant, ils entrent en jeu, non pas à partir du premier tour, mais un peu plus tard dans la convention. Ce sont des notables, finalement, du Parti républicain et qui peuvent faire éventuellement...
Ou du Parti démocrate.
Ou du Parti démocrate, qui peuvent faire basculer la convention. Mais, effectivement, les conventions contestées sont très dures et, en général, elles se concluent par l'échec en novembre parce que le parti est incapable de se rassembler pour pouvoir mettre en échec le candidat ou le président républicain. C'était le cas, par exemple, en 1980 avec l'élection de Ronald Reagan. Donc ça, c'est l'hypothèse catastrophe hein, que la convention contestait, et on ne peut pas l'exclure dans le cas où Sanders serait tête de liste, que le Parti démocrate dans ses constituantes et ses notables essaie de monter quelque chose, une offensive pour mettre en échec la candidature Sanders. C'est très risqué et évidemment le résultat risquerait d'être problématique pour le Parti démocrate. Mais c'est possible en effet.
Alors aucun d'entre nous n'a de boule de cristal, mais je ne résiste pas, on arrive à la fin de cette discussion. Bah, évidemment, on se passionne pour ce qui se passe dans le camp démocrate, mais la question finale, le 4 novembre prochain, ce sera de savoir, est-ce que oui ou non, le candidat démocrate, quel qu'il soit, est en mesure de battre Donald Trump. Donc, quels sont vos pronostics? Je commence par vous, Jérémy Guez.
Je pense que Donald Trump dispose d'un élan économique conséquent qui pourrait favoriser sa réélection. Et la grande question que je me pose, c'est l'Amérique rentrera-t-elle en récession avant novembre, oui ou non? Et si la réponse est oui, cet élan risque de s'effriter rapidement.
Pape.
C'est une élection ouverte et je pense qu'il ne faudra pas, il ne faudrait pas faire l'erreur symétrique de 2016 après avoir manqué, entre guillemets, pour la plupart des observateurs, sinon tous, l'élection de Trump. Penser qu'aujourd'hui sa réélection serait garantie. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette équation à inconnues multiples qui laissent leur chance aux démocrates, mais rien n'est garanti. C'est une élection qui est aussi ouverte que celle de 2016.
Laurence Nardon.
Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'ajoute même un élément qui va dans le même sens que Pape. En 2016, en fait, Trump a bénéficié de hasards dans ces 6 États qui ont basculé à une micro-majorité du côté républicain. Il y a eu un alignement d'étoiles incroyable en sa faveur. Et du coup, l'idée que ces coïncidences se répètent alors même que tous les électeurs sont prévenus et qu'il y aura une grosse mobilisation des démocrates, ça n'est pas évident. Enfin, ça n'est pas évident que Trump bénéficie de telles coïncidences une nouvelle fois.
Et donc, en perspective, grâce à vous tous, encore de passionnants débats pour savoir ce qui se passe, ce qui va se passer aux États-Unis. Merci à vous. Merci donc à Célia Belin de la Brookings qui publie ces jours-ci chez une coédition Fayard Fondation Jean Jaurès. Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Donald Trump. Merci à vous, Laurence Nardon. Vous avez publié en 2018 chez Taillandier un excellent « Les États-Unis de Trump en 100 questions ». C'est très utile à avoir sous la main. Pape Ndiaye, professeur d'histoire à Sciences Po Paris, merci à vous. Jérémy Guez, économiste, professeur à HEC, vous avez publié en 2018 « Déclin improbable, rebond impossible ». Merci donc à vous. Je n'oublie personne. Je remercie bien sûr Luc Jean Reynaud à la réalisation ce matin, Cindy Le Grumelec à la technique, Hugo Boursier qui a préparé cette émission et comme chaque samedi bien sûr, vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette. Très bon week-end et surveillons tous ensemble ce qui va se passer mardi prochain aux États-Unis. C'est-à-dire mercredi pour nous.